Eh non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Ah, dichats à toutes, c'est Dany Baillet, le gourmandas. Le gourmandas, pourquoi? Parce que dans notre belle langue gasconne, le suffixe a une importance capitale. Regardez par exemple un chien, une can. Si vous y ajoutez hotte, c'est un cagnotte, un petit chien. Si vous y ajoutez oum, ça fait un cagnoum, un mignon petit chien. Et si vous ajoutez a, ça fait une cagnasse. Et là, ça se passe de commentaires. Bonjour à tous, c'est Daniel Baillet, le gourmandas, à Banos, bien sûr, sur MDM. Voilà, et bien aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de magnifique qui nous occupe tous, et pas seulement dans les périodes festives, une brève histoire de l'ivresse. Et ce besoin m'est venu tout simplement suite à la lecture magnifique d'un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Marc Forsyth, qui est très connu, voilà, aux éditions du Sonneur. Et je me suis dit qu'à partir d'un chef-d'œuvre comme ça, un chef-d'œuvre sans chichi de Marc Forsyth, eh bien, j'avais envie de poser le décor en ces temps de compétition rugbystique, où forcément le match France-Angleterre, restant le centre du tournoi Destination, le fameux crunch, eh bien, nous permet soit d'humilier, soit d'être humilié par l'adversaire britannique. Et je souhaite donc traiter à part, de la même façon qu'il peut y avoir combat dans les deux sens, l'ivresse dans les deux camps, et à commencer par l'ivresse avec la France, qui est considérée aujourd'hui par les Anglais d'ailleurs comme la conséquence de quelque chose, et puis l'ivresse en Angleterre, qui ne cache rien et qui n'est pas du tout la contrepartie, la conséquence de quelque chose, mais une volonté directe de se la mettre, pour faire court. Alors, de souvenirs de pub, on en a tous, forcément on en a tous, bon voilà. Et mon passé au service de Sa Gracieuse Majesté pour un très grand établissement financier britannique m'a appris un peu ça. C'est que deux jours par semaine, on part à la sortie du boulot dans le plus gros pub qui se trouve en face de chez nous. Et on s'enfile 4 ou 5 énormes pintes de cidre à 9 degrés ou de bière à 9 degrés. Et si ça n'est pas suffisant, et bien après on avale 2-3 gros gins pour vraiment se la mettre. Ce qui veut dire que ça n'est pas la conséquence de quelque chose qui amène l'ivresse, mais la bonne volonté de se la mettre. Alors, tout ça étant, bien sûr, on va en discuter, on va regarder comment faire. Je vais essayer de voir avec vous, de disséquer un peu la réflexion sur l'ivresse. Des effets médicaux, quand même, on va en parler un peu, pas trop. Des effets psychologiques, bien sûr, et comportementaux de cette situation de l'ivresse vécue par chacun de nous. Alors, un petit avertissement aux lecteurs français, si j'ose dire ça comme ça. Nous pourrions dire que depuis très longtemps, les Romains, les Grecs, les Vikings, soit les Russes ou les Américains, vénéraient la beuverie mêlée aux agapes, et bien sûr, et aux festins, qui se terminaient souvent même d'ailleurs par des orgies monumentales. C'est la richesse, et toujours dans toutes les civilisations, qui a transformé la fête et ses échanges en excès, très souvent, puisque pour pouvoir faire la fête, il fallait aussi un peu de richesse, en tout genre, effet proportionnel à la richesse de celui qui vous recevait, bien sûr. Et donc, je vous citerai par exemple, dans ce propos, quelques thèmes d'Horace ou même de Pline l'Ancien, ça va encore plus loin, qui nous dessinent le paysage de l'ivresse quelque part tel que nous pouvons le connaître aujourd'hui. Donc, pour vous dire et ouvrir ce débat, donc, voilà, je vais vous donner un peu lecture de quelques phrases que j'ai prises chez Marc Forsyth, entre autres, et un petit avertissement de l'auteur au lecteur français, donc de ce Britannique au lecteur français. Si les Français sont de célèbres buveurs, mais pas de célèbres ivrognes, comment parviennent-ils ? Ben, ça reste un mystère aux yeux des Britanniques. Mais le résultat est là. Demandez à n'importe quel habitant de la planète de vous croquer un Français moyen, ou plus exactement un Français archétypal, le Français ultime. Il vous dessinera un homme coiffé d'un béret avec un verre de vin à la main. C'est vrai de Tallinn à Tombouctou parce que tout le monde sait que les Français sont des buveurs, bien que le béret, hélas, soit un ornement vestimentaire plutôt en péril. Et pourtant, si vous demandez à votre interlocuteur si les Français se saoulent, ce qui est après tout la conséquence biochimique de l'ingestion d'alcool, bien sûr, eh bien, il froncera les sourcils, il se courra la tête et répondra que les Français, n'en arrivent jamais là. Bien sûr, il est absurde de penser que les Français ne se saoulent jamais. Et bon, nous avons tous eu l'occasion d'observer une petite équipe de rugby auprès de chez nous, une bonne équipe de fêtards dans une fête, qui venait de remporter ou un championnat régional ou le concours de pétanque. Ben, les joueurs étaient ivres, à coup sûr, d'une manière explosive et spectaculaire, un vrai son et lumière de l'ivresse, en quelque sorte. Ils étaient, pour employer un merveilleux vocable français, beurrés, voilà. Et ils portaient des bérets, mais ça, c'est pas forcément toujours le sujet. Les Français se saoulent donc parfois. Mais un tel événement est toujours un peu une surprise. Il n'existe pas de fête française de la bière, ni de fête de la Saint-Patrick, ni de fête de l'ivresse, comme dans l'Égypte antique. Il n'y a aucun événement culturel qui permette à un Français ou une Française de se dire « Ce soir-là, je me saoule la gueule. C'est comme ça et pas autrement. » En Grande-Bretagne, cette occasion se présente deux fois par semaine, s'il vous plaise. La France est un pays où l'alcool est partout et ses effets, ben, nulle part. C'est comme de la lumière sans chaleur, comme un voyage sans destination. Mais l'alcool y est bel et bien partout. Ne nous inquiétons pas trop. Et de la vie générale, c'est le meilleur du monde. Tel un prêtre qui ne croirait pas en Dieu, un Français qui n'aimerait pas le vin, ne serait plus un Français. Arrêtez-vous devant un café sur 11h du matin, quand aucun Anglais ne boit d'ailleurs, soit dit en passant, et vous apercevrez un vieux avec son pastis, qui sera toujours là lorsque vous repasserez quelques heures plus tard. La différence, c'est que ce sera toujours le même pastis qu'il boira, celui qu'il sirote lentement depuis 1956. Toujours en train de boire, mais jamais bourré. Bien sûr, il arrive qu'un Français décide de se saouler. Alors là, faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui vous brise les épaules et vous pencher vers la terre, ben, il faut vous enivrer sans trêve. Mais s'enivrer de quoi? De vin, de poésie ou de vertu? À votre guise, mais enivrez-vous, Français. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, ben, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse, de vin bien sûr, mais aussi de poésie ou de vertu à votre guise. En tout cas, c'est ce que nous écrit Baudelaire dans ses périodes de guerre et ses moments de spleen. Mais le pauvre Baudelaire, bien sûr, était forcé de s'enivrer seul, ce qui le mena à la poésie. Nous pouvons parler de questions de forme que prend l'ivresse dans diverses cultures. Rapidement, le symposium grec, chaque fois des réunions, le Sumbel Viking, le bar clandestin new-yorkais du temps de la Prohibition. Ce moment évoque aussi la cage de chaque société humaine construite pour retenir la bête sauvage de l'ébriété. Et pourtant, je n'ai pas pu. Ça aurait été un chapitre intéressant qu'on retrouve souvent chez Rabelais, qui ne pensait pas qu'à boire, mais aussi beaucoup à manger des choses raffinées, et aussi à Baudelaire et bien d'autres. D'autres pays boivent pour se saouler, ça c'est clair. Et cela est dit par tous. En France, l'ivresse, donc, est conséquence, jamais finalité. La boisson est sentie comme l'étalement d'un plaisir, non comme la cause nécessaire d'un effet recherché. Le vin n'est pas seulement filtre, il est aussi acte durable de boire. Le vin est socialisé, parce qu'il fonde non seulement une morale, mais aussi un décor. Prenez une bonne bouteille partagée autour d'une table dans un club de vin. Il orne les cérémoniaux les plus menus de la vie quotidienne française, du casse-croûte, on parle du gros rouge et du camembert, c'est l'image populaire de Super Dupont, au festin, de la conservation de bistrot, au discours de banquet. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Le vin est un ornement, il est une cérémonie. Il n'est jamais ou rarement moyen d'accéder à une fin. Je n'aurais jamais cru que je dirais une chose pareille, ces mots m'écorchent l'âme, mais il faut bien reconnaître que je suis d'accord avec Barthes contre Baudelaire. Et je dois sûrement être ivre, sans doute. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même les vagues notions sur le sujet. Vous voyez, je mène des recherches empiriques en profondeur sur moi-même et sur l'ivresse depuis l'âge, comme tout le monde, d'environ 14 ou 15 ans. À bien des égards, j'aime me voir comme une sorte de Saint-Augustin moderne, vous voyez, quelqu'un qui pose des questions majeures comme « Qu'est-ce donc le temps ?» s'interroge-t-il lui-même. Si la personne me le demande, je le sais. Si je cherche à répondre à celui qui m'interroge, Je ne sais plus. Remplacez donc le mot temps par ivresse. Qu'est-ce donc que l'ivresse ? Et alors, vous aurez une bonne idée de ma sainte position. J'ai conscience de quelques faits médicaux basiques. Après deux gin tonic, par exemple, nos réflexes diminuent. Après une petite douzaine, votre déjeuner se rappelle à vous et vous éprouvez des difficultés à vous relever. Après un nombre indéterminé, sur lequel je ne souhaite pas me renseigner, ben, vous y passez, c'est aussi clair que ça. Mais ce n'est pas ce que nous savons de l'ivresse d'un point de vue augustinien, si j'ose dire. C'est un extraterrestre. Si un extraterrestre frappait à ma porte et me demandait pourquoi les habitants de cette planète particulière n'arrêtent pas de boire de l'alcool, je ne répondrais certainement pas « c'est juste pour diminuer nos réflexes ». Bon, en fait, non. C'est pour nous empêcher de devenir trop bons au ping-pong et de mater les Chinois. Ah bon ? Incroyable ! À ce stade, un autre bobard ne manque jamais de surgir souvent. L'alcool lèverait les inhibitions. Mais vous croyez ça ? Rien n'est plus éloigné de la vérité. D'ailleurs, éméché, je fais toutes sortes de choses que jamais je n'aurais souhaité faire en étant sobre. Je veux parler pendant des heures à des gens que je considérais comme assommants si je n'avais pas bu. Je me rappelle m'être un jour penché par la fenêtre d'un appartement et en agitant un crucifix, en criant aux passants de se repentir. Bon, certes, j'en avais un sacré coup dans l'aile. C'est pas quelque chose que je désire faire lorsque je suis sobre, juste quelque chose que je n'ai pas le cran de faire quand je ne le suis pas. De toute façon, certains des effets de l'alcool ne sont pas dus à l'alcool. Voilà, on le sait. C'est un jeu d'enfant de donner de la bière sans alcool aux gens, sans leur dire qu'elle n'en contient pas. Observez-les alors boire leur verre et prenez des notes. Les sociologues sont coutumiers du fait, et les résultats sont aussi probants que cohérents. D'ailleurs, on ne peut pas se fier à un sociologue dans un bar, faut quand même pas exagérer. Il faut toujours le garder à l'œil, surtout. Ensuite, si vous venez d'un milieu où l'alcool est censé vous rendre agressif, vous devenez agressif. Si vous êtes issu d'un milieu où il est censé vivifier la foi, vous ne tarderez plus à voir Dieu partout. Oh là là ! Vous pouvez même changer d'attitude d'une beuverie à l'autre. Si les sociologues retors s'annoncent que leur recherche porte sur l'alcool et la libido, alors là, tout le monde deviendra libidineux. S'ils déclarent qu'elle porte sur l'alcool et la chanson, tout le monde se mettra brusquement à chanter. Eh oui ! Alors les gens ont même tendance à modifier leur comportement en fonction du type d'alcool dont ils croient s'imbiber. Même si l'ingrédient actif, parce qu'un seul ingrédient compose l'alcool, c'est l'éthanol, est identique, ils ajouteront leurs faits et gestes aux origines du spiritueux concerné et aux traits culturels qui lui sont associés. Les Anglais ont toutes les chances de se révéler belliqueux, alors après quelques pintes de bière blonde ou de cidre à 9 degrés, mais donnez-leur du vin, qu'ils associent bien sûr quand même au raffinement de la France. Et ils se montreront sages, distingués et courtois. Dans les cas les plus sérieux, se laisseront même pousser le béret. Si, si, c'est pas sans raison que nous avons des rustres de la bière blonde, mais pas des vandales du vermouth, ni d'anticonformistes du Campari. Étonnant, non ? Certains se mettent en rogne lorsque vous leur signalez. Ils insistent sur le fait que l'alcool qui cause leur réaction, disons leur violence plutôt, par exemple, est normal. Si vous leur indiquez que la violence est aussi présente dans les lieux culturels où l'alcool est interdit, ils ne vous croient pas, ils se renfrognent. Si je leur fais observer que ce qui est dans mes cordes, que je bois bien plus et que la plupart des gens, mais que je n'ai plus frappé personne depuis l'âge de 8 ans, alors que mes lèvres pacifiques n'avaient encore jamais trempé dans un liquide enivrant, ils répliquent « oui, mais peut-être vrai pour toi, mais pour les autres ». Eh bien sûr. On en revient toujours aux autres, qu'ils aillent au diable, tout simplement, les autres. C'est l'enfer. Néanmoins, la majorité des gens sont capables de boire toute la soirée à l'occasion d'un agréable dîner, sans poignarder une seule fois le convive assis à leur droite. Et j'en connais, bien sûr, heureusement. Au cas improbable, vous trouveriez soudainement transporté dans un autre lieu à une autre époque. Un Égyptien de l'Antiquité serait sans doute très surpris que vous ne buviez pas pour voir apparaître la déesse à la tête de lionne à tort. Je croyais que tout le monde faisait ça, me disait un ami. Et oui, il se demanderait toujours pourquoi vous refusez à communiquer avec les ancêtres. C'est ainsi que va l'idée qu'on se fait d'une soirée alcoolisée.
MDM.
Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure, ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises, y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire.
Salut, c'est Lou Gourmandas, vous êtes bien sur MDM, aller-retour sur la beuverie. Et bien sûr, avant de parler de quelques savantes soirées, nous allons juste passer par une période anecdotique, juste pour vous expliquer que ça n'est pas un règlement de compte gratuit avant la période rugbystique dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est simplement sur un détail, mais qui a son importance. Il semblerait, et c'est tout à fait historique bien sûr, que l'histoire de l'Angleterre se soit construite, en tout cas de son nom, se soit construite après une énorme soirée de beuverie sur deux princes et rois qui s'appelaient Hongrest et Vortigern, qui firent venir des amis à eux, des gens originaires de leur tribu du Danemark, lorsqu'ils s'étaient installés sur les îles anglaises, et ils parlaient tout le temps dans leur communication, ils évoquaient souvent les grands vins. Et dans leur tribu, il y avait aussi trois catégories de gens, bien sûr, qui étaient des conquérants, des guerriers, les Jutes, les Saxons, bien sûr, et les Angles. Les Angles, qui étaient la plus grosse tribu, la plus importante, qui avait toujours envie de combattre et qui voulait surtout combattre pour du vin. L'essentiel des guerres poursuivies par ces gens, des territoires volés, étaient des territoires où il y avait du vin. Donc, ainsi, plus les actes sont nombreux, bien sûr, plus ils s'installent sur cette île qui devient donc la terre des Angles, c'est-à-dire l'Angleterre. Incroyable, mais vrai. Ça donne soif tout ça, évidemment. Alors, pour vous dire que je vous avais promis de parler de quelques poètes et de vous donner quelques belles citations, on va parler un peu d'Horace, qui nous parle, lui, de l'ivresse, de sa façon de voir l'ivresse. Que ne dévoile point l'ivresse ? Eh bien, elle révèle les secrets, elle réalise les espérances, elle traîne le lâche au combat, elle soulève le fardeau des inquiétudes, elle enseigne les arts. Quel est celui que les coupes fécondes n'ont pas fait éloquent ? Qui ne délivre-t-elle pas des chaînes de la pauvreté ? Puis Horace promet que la nappe sera propre. Lui est un grand ami des soirées, fini dans le bonheur et dans l'opprobre, bien évidemment. Il rappelle par ailleurs que le lendemain sera un jour férié, donc tous les excès sont permis. Aussi, ses convives pourront-ils rester dormir chez lui ? Un convivium, car ça s'appelait ainsi, se terminait après minuit. Les invités devaient donc se risquer à traverser les rues sombres de Rome pour rentrer chez eux. Bien sûr, le lendemain matin, ils devaient franchir la dernière étape de la beuverie, et pas la plus facile, celle que nous connaissons tous bien, la gueule de bois. Déjà Pline l'Ancien, et c'est beaucoup plus vieux, nous en fait une bonne description. Le buveur ne voit pas le soleil se lever et vit moins longtemps. De là cette pâleur, ses paupières pendantes, ses yeux éraillés, ses mains tremblantes qui laissent échapper des vases pleins. Ce sommeil troublé par les furies, qui est la punition immédiate, cette agitation nocturne et récompense suprême de l'ivrognerie, les débauches monstrueuses et le goût des horreurs. Le lendemain, l'haleine a l'odeur d'un tonneau. Presque tout est oublié et la mémoire est morte. C'est ce qu'ils appellent enlever la vie. Et tandis que chacun ne perd que le jour qui s'est écoulé, eux perdent aussi celui qui va venir. Ça semble parfois un peu sévère, même s'il nous rappelle des souvenirs plus ou moins proches. Ainsi, dans les âges obscurs, fêtes étranges, à l'époque des Romains, par exemple, on en parle beaucoup, bien sûr, le vin voyagea beaucoup plus loin que n'importe quel légionnaire. On le mettait du reste sur les bateaux pour provoquer plus vite son vieillissement. L'armée romaine entra en Germanie, atteignit la forêt de Teutoburg, il fut écrasé et n'en revint jamais. Alors que le vin romain entra en Germanie, atteignit la forêt de Teutoburg et fut bu par les autochtones assoiffés qui en redemandèrent. Car ils avaient grand soif, les autochtones. Imaginez une bande de germains primitifs, c'est pas mal, à l'occasion d'une fête de la bière des plus rudimentaires, et vous ne serez pas loin de la vérité. Boire des journées, des nuits entières n'est une honte pour personne. L'ivresse produit des querelles fréquentes, qui se bornent rarement aux injures d'ailleurs. Presque toujours, elles finissent par des blessures et même des meurtres. Tel est l'avis de l'historien romain Tacite, qui affirme aussi que les Germains prenaient toutes leurs décisions politiques en étant complètement sous, sous prétexte que ça les rendait sincères. Étonnant, hein ? Alors la réconciliation des ennemis, l'alliance des familles, le choix des chefs, la paix, la guerre, se traitent communément dans les festins, sans doute parce qu'il n'est pas de moment où les âmes soient plus ouvertes aux inspirations de la franchise ou à l'enthousiasme de la gloire, ça c'est sûr. Cette nation simple et sans artifice découvre dans la fibre, guettée de la table, les secrets que le cœur refermait encore. La pensée de chacun ainsi révélée est mise à nu et discutée de nouveau le lendemain. Et l'un et l'autre temps justifient également son emploi. On délibère lorsqu'on ne saurait feindre. On décide quand on ne peut se tromper. Bien sûr, ces usages mériteraient d'être plus répandus chez nos politiciens, sans doute. Ne serait-ce que pour animer de façon amusante les interviews à la télé. Hélas, jamais on n'a poussé plus loin le principe de in vino veritas. Ou alors, on ne s'en rappelle pas. Si l'alcool rend sincère et si le monde politique grouille de mensonges et de menteurs, oh non, ça c'est un peu exagéré quand même, ne serait-ce pas judicieux d'administrer aux politiciens ce sérum de vérité ? Il y a une certaine logique là-dedans, tout comme dans la conviction des Chinois et des Indiens qu'un souverain ne devrait jamais, jamais être ivre. Si nous adoptions cette approche aujourd'hui, nous aurions sans doute davantage de guerres, mais nous comprendrions au moins pourquoi. Voilà, donc ceci, bien sûr, est à méditer. Je vous laisse, bien sûr, le choix et le plaisir de le faire. Je dirais un peu en épilogue que qu'est-ce que l'ivresse ? Parce que l'interrogation reste constante. Et c'est vrai qu'elle me taraude un peu plus tous les jours quand je pense aux Anglais qui se la mettent, avec qui j'étais parfois allé passer quelques soirées désastreuses. Oui, je me rends compte que quand même nous, les Français, amateurs de bon vin, nous passons surtout des moments de partage, et même si on a un coup dans les oreilles, c'est forcément une conséquence. Quelle est cette increvable aspiration humaine que l'ivresse ? Sa constance a des formes si changeantes, elle s'exprime surtout à travers ses archétypes. L'homme fort qui peut boire énormément sans jamais être sous. Socrate, Confucius et dans une certaine mesure Staline. Et à l'inverse, l'homme fort qui est constamment sous. Pierre le Grand, Odin, on le dit en tout cas dans la légende. Babur et Alexandre le Grand, qui conquit le monde dans une sorte de brouillard. Jamais ils n'avaient la vue claire. Et puis il y a la picole transitionnelle. C'est pas comme l'écologie, mais c'est pas loin. Nous buvons pour passer d'un état à un autre, tout simplement. Nous buvons pour marquer la fin d'une journée ou d'une semaine de travail, ou si vous appartenez à la tribu du Sirius d'Éthiopie, bon, mais c'est un peu vieux actuellement, vous buvez pour marquer le début de la journée de travail. Comme ils ont coutume de le dire, attention, sans bière, pas de boulot. Je crois pas que ce soit beaucoup pratiqué ici. Nous buvons au baptême, au mariage, aux enterrements, au bar mitzvah, etc. Et à chaque fois, le fait de boire signifie quelque chose. Que l'ancien état des choses a changé et qu'un nouveau monde légèrement tremblant est apparu. Qu'on était dans son coin, qu'on s'est mélangé aux autres, qu'on ne parlait pas, qu'on s'est mis à parler, à deviser. Les Itezo du Kenya ont un petit rituel très chouette pour les bébés. Un prénom est choisi, la grand-mère trempe un doigt dans la bière, puis le glisse dans la bouche de l'enfant. Ben, si celui-ci le suce, alors ce prénom sera le sien. Incroyable, non? Alors, à mon humble avis, la réponse à ces questions, si du moins nous ne cherchons nous pas à échapper à ces questions, et que nous n'en connaissons précisément pas les réponses, c'est un peu ça l'inquiétude à venir. Depuis que l'humanité est descendue des arbres, pour profiter de cette précieuse mutation de l'éthanol en alcool, des hydrogénases, nous nous posons deux questions. Ben, tout ça pour ça, surtout le lendemain de cuite. On est vraiment obligé ? Toute une société se construit, se bâtit sur un ensemble de règles, et peu importe qu'elles soient bonnes, qu'elles soient raisonnables, justes et intelligemment conçues pour notre sauvegarde et notre bien-être, il nous faut nous en libérer de temps à autre. Point final. L'humanité a un besoin compulsif de créer des lois comme elle a besoin de les briser. Cela rend un peu idiot, mais ça fait aussi un peu sa gloire. La réponse à la première question a elle aussi des relents d'alcool, tout ça pour ça. Peut-être, probablement. Mais si l'on nous donnait beaucoup plus, nous continuerions de nous poser la même question. De toute façon, les humains ne sont jamais satisfaits. Ça fait aussi pour leur gloire et partie de leur gloire. Nous sommes toujours en quête de nouveaux océans à traverser, non parce que nous le jugeons nécessaire, mais parce que nous nous ennuyons, tout simplement, et que nous ennuierions encore plus si nous ne buvions pas. Nous aimons parler de vérité ultime, nous serions déçus d'en trouver une parce qu'il n'y en aurait plus d'autre à dénicher. Catastrophe ! Nous aspirons à un Dieu que nous pouvons décrire, car la seule description qui nous vient à l'esprit à nous autres humains est celle d'un magicien habile. Peut-être d'ailleurs Dieu est-il plus que ça. Les humains ne s'ennuient jamais lorsqu'ils sont ivres. Vous l'avez remarqué? Comme nous l'avons déjà vu, c'est encore William James qui l'a formulé en mieux. Pour lui, la sobriété diminue, discrimine et dit non. L'ivresse, elle agrandit, elle unit et elle dit oui. L'ivresse est un nœud de contradiction parce qu'elle dit oui à tout. Elle peut être l'instigatrice de la violence tout autant que de la paix. Elle nous fait chanter, elle nous fait dormir. Pour les Grecs, elle donnait l'occasion d'éprouver la maîtrise de soi. Pour les Vikings, elle était la source de la poésie. La bonne comme la mauvaise. Pour tout vous dire et pour en terminer, nous pourrions deviser jour et nuit, bien sûr, et pendant très longtemps. Ben, l'ivresse est notre passé, et je suis sûr que c'est notre futur aussi un jour, dans très longtemps, lorsque peut-être les chimpanzés auront pris le contrôle des brasseries, que les éléphants occuperont les distilleries, que tous les peuples seront remplis de drosophiles et enamourés, ben, notre espèce éclusera son dernier godet sur Terre. Grimpera en titubant dans les vaisseaux spatiaux, se laissera derrière elle une petite boule rocheuse et partira vers une autre planète. Incroyable. Et je sais où nous dirigerons. Elle s'appellera Sagittarius B2N, un nuage moléculaire à 26 000 années-lumière de la Terre, et tous ceux qui auront commencé le voyage n'en verront sûrement pas la fin. En tout cas, sur ce, à bon entendeur, évidemment, et à bientôt sur nos ondes. Moi, je vais me coucher parce que je crois que vraiment j'en tiens une incroyable. Retrouvez Lou Gourmandas en podcast sur le site www.radio-mdm.fr. Adichas, à bientôt.